Samba africain, Madeleine Mukama Bano.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat que nous consacrons au bilan de l'année 2009 en Afrique, un bilan à deux volets. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les principaux événements politiques tels que les élections ou les crises politiques. Et dimanche prochain, nous évoquerons les grandes tendances dans les domaines économiques, politiques et géopolitiques. Et pour ce débat, nous sommes en compagnie de Yacouba Yaro, directeur du CERFODES. C'est le Centre d'études, de recherche et de formation pour le développement économique et social. Il est basé à Ouagadougou. Yves Ekwe Amaizo, économiste, consultant, directeur du think tank Afrologie. Chérif Sey, rédacteur en chef du magazine Les Afriques. Et Alassane Ba, cadre supérieur dans une société de fonds d'investissement parisien. Il est aussi membre du groupe de réflexion NIMBA CAP 21. Monsieur, bonjour et merci d'avoir interrompu vos courses de Noël pour participer à cette émission. On va commencer pour faire ce bilan par les élections parce que 2009 a été une année électorale. Et si on regarde toutes les élections qui ont eu lieu, il y en a eu beaucoup en Mauritanie, au Gabon, en Tunisie, en Algérie, en Afrique du Sud, en Guinée-Bissau, au Congo-Brazzaville et j'en passe. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a eu des contentieux post-électoraux, comme dans toute élection, mais cette fois-ci, elles n'ont pas abouti à un blocage politique. Yacouba Yaro, comment expliquez-vous cela? Est-ce que les gens en ont marre?
Je crois que les choses ont peut-être évolué à un moment donné. C'est pas que les gens en ont marre, mais ils ont l'impression que chaque fois qu'on revendique, ça n'aboutit pas. Est-ce que ça vaut la peine, après des élections, de continuer donc de faire des revendications? Surtout que tous ceux qui sont là, les observateurs, disent toujours « Oui, ben écoutez, il y a eu des petits problèmes, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. » Et quand les opposants ou les perdants essaient de revendiquer, ça n'aboutit jamais. Et je pense que c'est ça qui explique un peu cette situation. Et je crois que dans l'ensemble, quand on regarde toutes les élections qui se passent en Afrique, et d'ailleurs ça devient comme quelque chose de classique, chaque élection africaine est toujours suivie avec quelques revendications, quelques rejets, mais ça n'aboutit pas. Et sauf évidemment, on a vu certains perdants qui ont quand même félicité les vainqueurs. Je prendrai le cas de la Guinée-Bissau qui, pour à regarder de près, n'était pas le lieu où l'exemple devait venir, mais on se rend compte qu'il y a quand même une évolution à certains niveaux, même si il y a une certaine lassitude au niveau des politiques.
Mais justement, le cas de la Guinée-Bissau, Chérif Sey, tout le monde s'attendait à une élection très difficile, un climat post-électoral très difficile. On a l'impression que les Bissau-Guinéens se sont ressaisis, comme si l'assassinat du président et du chef d'état-major avait provoqué un électrochoc.
Je crains, c'est ce que j'espérais, mais je crains que ce ne soit malheureusement pas le cas. Parce qu'en réalité, en Guinée-Bissau, qu'est-ce qui se passe quand c'est violent? En réalité, ce n'est pas stricto sensu au sein de la classe politique. C'est simplement que l'armée décide d'intervenir pour une raison ou pour une autre. Or, l'armée, que ce soit après ou avant élection, à la limite, ça ne change rien. À partir du moment où elle estimera devoir s'ingérer dans le jeu politique, elle reviendra. Donc, je ne pense malheureusement pas que le fait que l'élection se soit bien passée préfigure en quoi que ce soit de ce qui peut se passer demain ou après-demain en Guinée-Bissau. Le problème demeure. On a un pays qui n'a pas encore réglé la question militaire parce que, rendez-vous compte, dans ce pays, je crois que c'est 60% du budget ou 80% du budget qui est consacré simplement au paiement des salaires. Et dedans, les salaires des militaires représentent 80% aussi.
Oui, donc une armée qui occupe encore une place importante dans la vie politique et même dans la vie économique du pays. Alors, il y a le cas aussi de la Mauritanie. Là, c'est un cas classique aussi, c'est coup d'État, période de transition, et le militaire qui assure la transition se fait élire Yves Ekwe Amaizo.
Je prendrai la suite de ce qu'a dit notre interlocuteur juste avant moi. Il faut dire la vérité, c'est l'armée. L'armée, les militaires, que ce soit de manière directe par des coups d'État, que ce soit par personnes interposées, donc des civils, ou carrément qu'ils restent dans l'ombre et qu'ils fassent travailler ces civils pour eux, ou pour elles, pour parler de l'armée, nous revenons au point fondamental du problème de la démocratie que vous soulevez. C'est-à-dire que personne ne veut vraiment toucher du doigt le rôle de cette armée dans son ingérence, directe ou indirecte, dans la vie civile et la vie politique de nos pays. Deuxième élément qui vient ensuite...
Et on voit que la plupart des pays quand même qui sont en crise, l'armée joue un rôle important dans le dispositif, dans les éléments qui provoquent ou qui aggravent la crise.
Bien sûr, si l'armée est républicaine, de manière générale, les choses se passent plutôt bien. Si l'armée ne l'est pas, alors vous avez tous les différents scénarios que vous venez de citer. Prenons les cas justement de Tunisie ou de l'Algérie où officiellement tout s'est bien passé. Si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a collusion directe entre cette armée et le pouvoir politique. Vous prenez d'autres pays, on n'a pas besoin le temps de le citer, mais ces armées, regardez bien les salaires de la plupart de ces grands dignitaires de l'armée, les généraux en particulier, les capitaines et ceux qui sont les plus proches, ça a été doublé, triplé, quadruplé. Et généralement, ça demande même plus, puisque on verra le cas de Guinée. Il s'agit aussi de revoir quels sont les grands contrats qu'ils pourront signer pendant les périodes où ils dirigent le pays. Donc l'armée. Alors quand vous dites au départ que les personnes, la société civile africaine, en a marre ou bien abandonnent la lutte, non, je dirais plus simplement que face à cette armée diffuse ou directe, ben, quelque part elle a peur, il faut dire la vérité. Et de cette peur, c'est quoi? C'est perdre des emplois. C'est se faire tirer dessus, c'est se faire massacrer, c'est être blessé. Et tout ceci, personne ne paie, on n'a pas de sécurité sociale. C'est cette peur diffuse-là qui est en train d'émerger, qui fait en fait qu'on a de moins en moins confiance, peut-être, dans les partis politiques eux-mêmes, qui sont en perte de vitesse d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivent pas finalement à faire passer ou à faire valider cette alternance-là.
On a vu d'ailleurs qu'il y a une sorte d'émiettement de la classe politique de l'opposition. Ça s'est vu notamment dans un pays comme le Gabon, où il y avait tellement de partis politiques qu'on se disait pourquoi l'opposition n'a pas désigné un seul candidat.
Et là encore, vous avez raison. Bon, une opposition sérieuse est une opposition qui est capable d'arriver avec des candidatures communes, surtout quand il y a des élections à un tour. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est une opposition sérieuse qui, finalement, ne va pas à la soupe, comme on dit très communément. Donc, dans certains pays, beaucoup d'oppositions n'ont que de nom, le mot d'opposition. Donc, quand vous mettez tout ceci en perspective, il n'est pas très étonnant, finalement, de voir la situation. Alors, bien sûr, on ne l'a pas dit toujours, les interférences extérieures, vous savez, des pays anciennement colonisateurs ou d'autres, tout simplement, qui ont les moyens financiers au niveau notamment de l'aide au développement, dite aide d'ailleurs, ils ont aussi leur influence. Donc quand vous mettez tout ceci ensemble, vous avez un mélange d'étonnants qui fait que la société civile reste sans voix, sans puissance, et en fait son vote, la validation de ce vote n'est pas là. L'urne est en fait violée.
Alors il y a un cas particulier dans ces élections, c'est celui du Gabon qui a vu, après le décès du président Omar Bongo, son fils lui succéder. C'est une élection qui a fait couler beaucoup d'encre à la Sanba. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est dans l'ère de l'après-Bongo? Est-ce qu'il y a eu rupture? Parce que c'est pas parce qu'il porte le nom de son père peut-être qu'il va faire la même chose que lui.
Oui, donc disons déjà que par rapport à cette élection-là, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de contestation des élections. Comme disait M. Amezo, sur la partie, donc sur le cas gabonais par exemple, les partis politiques de l'opposition auraient dû présenter au moins une candidature unique, sachant que c'était une élection à un seul tour. Maintenant, est-ce que le peuple gabonais a plutôt voté pour Bongo fils ou pas? Disons que le peuple n'a pas continué en tout cas la lutte. Il faut dire aussi qu'en Afrique, ce n'est pas que les partis politiques qui veulent le changement. Le peuple le veut aussi. Le peuple essaie de manifester comme il peut, même si nous savons bien que quand le peuple descend dans les rues, c'est toujours par des carnages que ça se termine. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste des cas gabonais, mais je dirais tout simplement que ce n'est pas parce que M. Bongo fils porte le nom Bongo qu'il ne peut pas incarner la rupture. J'ai l'impression qu'il est quand même de la nouvelle génération, donc par là, il pourrait éventuellement, en mettant une nouvelle équipe, avec une nouvelle dynamique et un nouvel état d'esprit qui pourrait permettre peut-être au Gabon de repartir sur de bonnes bases. Maintenant, il faut quand même le juger sur les actes. Aujourd'hui, très clairement, en Afrique, c'est de façon globale. Il n'y a aucun pays qui organise des élections transparentes.
Oui, Yacouba Yarao, vous partagez ce point de vue qu'il peut y avoir rupture, même si d'aucuns crient plutôt à une sorte de début ou de confirmation des républiques monarchiques.
En fait, je ne suis pas sûr que la rupture, elle est là. Je pense que le gros problème, c'est comme on le voit, c'est on est dans une situation, si vous permettez l'expression, de monarchie républicaine. Et ça, c'est une tendance qui est en train de se développer un peu partout en Afrique. Vous avez vu déjà le cas de Fils Bongo, c'est vrai, mais avant lui, il y avait le cas du fils Yadema. Et après lui, il y a d'autres qui sont en train d'être préparés pour la succession des pères. Et j'avoue que nous sommes dans une tendance qui n'est pas très encourageante. C'est comme si il faut appartenir à la famille du président ou à la famille d'un dirigeant pour pouvoir le remplacer et continuer l'œuvre. Je pense que tout cela démontre une certaine difficulté au niveau, par exemple, de comment nous gérons nos politiques. Et je crois que quand on regarde tout cela, je ne suis pas sûr que c'est encourageant pour ceux qui veulent vraiment faire de la politique. Et moi, je ne pense pas que le cas du fils Bongo, c'est vrai, on dit il n'est pas comme son père, et il est d'une génération, il va changer les choses, il a commencé. Mais ce qui est gênant, c'est de voir que depuis plus de 40 ans, ce sont les Bongos, c'est le fils Bongo. Et moi, je pense, comme quelqu'un l'avait dit, quelqu'un d'autre aurait pu peut-être prendre la succession du père et quitte après à ce qu'il se présente. Mais quand vous voyez cette situation, vous dites, mais décidément, est-ce qu'on est dans une situation de démocratie? Je ne crois pas. On est plutôt dans une tendance monarchique, que nos républiques deviennent donc des républiques de monarchie, et ça y ressemble de trop. Voilà un peu ce qui fait craindre un peu les choses à l'avenir.
Il y a aussi le cas de la Côte d'Ivoire, où l'élection a été reportée à maintes reprises, et là aussi les avis sont souvent partagés. Il y a ceux qui estiment que la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'elle a vécu ces 10 dernières années, devrait prendre tout le temps d'assainir la situation avant d'aller aux élections, et d'autres qui estiment que ce sont des manœuvres pour prolonger la présidence du président Gbagbo. Chérif, qu'en pensez-vous?
Actuellement, on peut croire au président Gbagbo quand il dit qu'il va aller aux élections, ne serait-ce que parce que les choses à ses yeux n'ont jamais semblé aussi favorables à son camp. Il y a bien sûr ses sondages, mais il y a également sur le terrain des ralliements de beaucoup de on va les appeler classiques ou ténors, soit du RDR, soit du PDCI. Et je pense qu'actuellement, croyant à sa victoire à cause de tous ces éléments, lui va aller aux élections. Mais il reste que il y a quand même des difficultés.
Il y a des contentieux, notamment au niveau des listes électorales, oui.
C'est vrai que quand on va dans un conflit pendant tout ce temps-là à cause de divergences sur les problèmes de nationalité, ça devient un problème sensible. Et l'on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, bon, c'était peut-être une bonne chose. Le véritable problème, on l'a différé jusqu'à maintenant. Maintenant, il est posé. Qui va avoir le droit de voter ou de ne pas voter? C'est seulement aujourd'hui qu'on se met à aborder de front la véritable cause du contentieux en Côte d'Ivoire. Mais à côté du président qui a peut-être envie de voter, il n'y a que le Premier ministre qui est chef du gouvernement. En réalité, lui, on se rend compte qu'il n'a aucun intérêt à ce qu'on aille aux élections. Parce qu'il sera mis hors jeu, il n'est pas candidat.
Il n'a pas d'autre légitimité que celle qui a été conférée par la crise.
Tout à fait. Il y a lui, il y a également tous ces chefs militaires qui n'ont pas beaucoup envie qu'on aille à des élections et qu'ils redeviennent des citoyens comme les autres.
Il y a quelque chose qui est apparu à travers ces élections, que ce soit dans le cas du Gabon ou dans le cas du Togo, qui va peut-être aller aux élections. Yves Koué Amaïzo, c'est la question qui est posée à propos d'une élection présidentielle à un seul tour. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que ce n'est pas représentatif.
Écoutez, bon, les gens ont leurs avis. Moi, ce que je dirais surtout, la CEDEAO, les institutions sous-régionales en général, nous posent problème. Dans le cas du Togo, parce que ce sont des institutions qu'on aurait pu penser beaucoup plus puissantes qu'elles ne le sont, et qu'en réalité, finalement, elles donnent de la voix, et très sincèrement, elles laissent les choses se passer. Dans le cas du Togo, c'était très clair. La CEMAP ou la CEAC, dans le cas du Gabon, on a vu ce que ça donnait. Donc, je retiendrai une forme d'impuissance et de faiblesse chronique de ces institutions-là, et qui, par exemple, posent problème, parce que leur position est reprise par l'Union africaine, est reprise par l'Union européenne, etc., et jusqu'à l'ONU. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème de fond, c'est que bien qu'on ait dit depuis longtemps qu'il faut absolument avoir des élections à deux tours et que des référendums ont été faits dans le cas du Togo, par exemple, en 1992, il se trouve de manière unilatérale que ceux qui sont au pouvoir ont décidé de le modifier. Là encore, la CEDEAO a été très silencieuse. Les opposants qui, lors d'une conférence qui a eu lieu à Ouagadougou, auraient pu modifier la donne, ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, à quelques mois des élections, le problème se pose, faut-il ou pas modifier, aller revenir en fait aux deux tours ou à un seul tour. Bien sûr, sur le plan de la légalité, ceux qui sont au pouvoir diront, écoutez, moi je l'ai changé, personne n'a rien dit au fond, donc je continue comme cela. Le vrai problème de fond revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. En dehors de toutes ces faiblesses, des institutions sous-régionales, la monarchie républicaine, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a ce vrai problème de ce que nous appelons l'opposition, ou en tout cas des partis d'alternance dans nos pays. Ces gens-là, pour la plupart, se clament de cette opposition, mais il faut voir, certains c'est des oppositions de la grande bourgeoisie, d'autres c'est des oppositions fortuites, c'est-à-dire qu'on attend en fait pour se faire connaître, pour pouvoir trouver un poste dans le prochain gouvernement quand les choses se mettront en place. Et troisième chose, il ne faut pas l'oublier, c'est la plupart des militaires posent une seule question, qu'est-ce que nous devenons, qu'est-ce que nous allons manger, et à partir du moment où ce point n'est pas réglé très en amont ou en avant, comment on se place devant les élections, il y a du mal donc à avancer.
Alassane Ba, la question des partis politiques, des forces d'alternance est régulièrement posée. Il arrive qu'on ait l'impression qu'on leur jette une responsabilité qu'ils ne portent pas nécessairement.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, fondamentalement, nous avons ce débat aujourd'hui en Guinée. Si les militaires continuent encore à s'accrocher, c'est qu'ils considèrent que l'opposition, pour la grande majorité, vient des anciens gouvernements de l'ancien comté. Maintenant, est-ce qu'il faut choisir entre, par exemple, pour le cas toujours de la Guinée, est-ce qu'il faut choisir entre des militaires et une opposition qui, d'une façon ou d'une autre, a participé à la situation actuelle? Moi, je considère que à partir du moment où on a quand même une opposition qui se veut crédible, qui vient avec un projet, mais véritablement avec un projet, pas uniquement une opposition d'opportunisme, c'est-à-dire vouloir modifier et changer fondamentalement les choses comme ça a été demandé par la grande majorité des peuples africains et notamment pour le cas de la Guinée. On peut leur faire quand même confiance à partir de ce moment-là. C'est pas parce qu'on a participé à un gouvernement, à moins qu'il ait été démontré que ces gens-là ont participé directement à la dilapidation ou au détournement des biens publics, auquel cas on pourrait les écarter d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que tirer systématiquement sur l'opposition, quelque part, c'est quand même de dire, bon, bah, l'opposition est disqualifiée, donc on va garder ceux qui sont au pouvoir ou les militaires. Et c'est pas forcément la bonne solution. Je rajouterais par contre une chose. Je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, nous n'avons pas une classe politique crédible en Afrique. Vraiment, quand on regarde les sommets internationaux où nos leaders, que ce soit des pouvoirs ou de l'opposition, nous représentent, on voit bien qu'on manque de gens qui ont des visions pour l'Afrique. Ils ne bâtissent pas fondamentalement des projets ou des politiques sur le long terme. Les gens viennent par opportunisme. Tous ces gens qui sont dans l'opposition, pour certains, le jour ils arriveront au pouvoir, ils seront pires que ceux qui sont là. Donc oui, Disons-nous aussi la vérité. C'est cela le malheur. On espère, comme beaucoup d'autres Africains, qu'on arrivera à trouver une nouvelle génération de leaders qui arriveront à surmonter cela.
Oui, Chérif Sey.
Bon, moi, je me demande vraiment dans quelle mesure nous ne sommes pas non plus un peu trop sévère avec l'opposition. Quand on regarde dans nos pays,
les conditions dans lesquelles l'opposition travaille. Oui.
Absolument, et surtout le fait que quand même une bonne frange de la population, chez les intellectuels et autres, nous ne nous impliquons pas politiquement et nous sommes dans nos salons à critiquer l'opposition. Eux, au moins, c'est vrai tout qu'il y en a qui sont très opportunistes, mais je pense qu'il y en a qui sont sincères, qui ont du mal un peu à mordre sur l'électorat et sur les masses. Mais je pense qu'il faut une implication davantage de tous les cadres africains. Il ne faut pas dire que la politique est sale et que moi, je ne me salis pas. Elle est laissée et elle est critiquée. Je pense qu'il faut un engagement davantage d'Africains dans le jeu politique chez eux pour que le rapport de force change et que de nouvelles idées et de nouvelles forces puissent émerger qui représentent de véritables alternatives.
Est-ce que justement le fait que la société civile, au lieu de jouer son rôle, a tendance à s'impliquer dans la politique, mais comme acteur de premier plan, n'est pas un problème au lieu de soutenir l'action des politiques?
Non, moi, je pense que, parce qu'il y a société civile et société civile. Il y a société civile des gens qui, c'est des ONG et autres défenseurs des droits de l'homme qui, sous prétexte que je vais rester société civile, tout en jouant un jeu souterrain avec les politiques, ne le fait pas au grand jour. Je pense que cela constitue un problème. Il faudrait que de manière plus franche...
Mais il suffit de voir le nombre de gens issus des associations des droits de l'homme qui se sont retrouvés candidats à la présidence.
Tout à fait. Donc, il faut que les choses soient claires. La politique n'est pas une affaire sale. La politique, c'est ce qui conduit nos pays. On doit s'engager de manière très claire et puis voilà, se battre à visage découvert plutôt que se réfugier derrière un statut d'observateur de société civile pour attendre le moment venu et sauter dans l'arène politique.
Merci, merci. On en reste là. Dans la deuxième partie, nous allons aborder la situation des pays en crise. Mais là, nous marquons une pause pour le journal.
Le débat africain, Madeleine Mukamabano.
Suite de notre débat consacré au bilan de l'année 2009 en Afrique, nous sommes toujours en compagnie de Yacouba Yaro, directeur du CERFODES, le centre d'études, de recherche et de formation pour le développement économique et social basé à Ouagadougou, Yves Ekwa Maizo, économiste, consultant, directeur du think tank Afrologie, Chérif Sey, rédacteur en chef du magazine Les Afriques, et Alassane Ba, cadre supérieur dans une société de fonds d'investissement parisien. Il est aussi membre du groupe de réflexion NIMBA CAP 21. Messieurs, dans la première partie de l'émission, nous avons évoqué cette année électorale, puis cette amertume que certains, comme Alassane Ba, ressent et qui est peut-être ressentie par d'autres électeurs. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des pays en crise. Et les pays en crise, il y en a beaucoup, le Niger, Madagascar, la RDC où ça n'en finit pas, la Somalie, la Guinée. On va peut-être commencer par la situation du Niger. Yves Ekwa Maizo, voilà une situation assez emblématique, puisque le Niger, à un moment donné, pouvait être considéré comme un laboratoire de la démocratie avant que ne survienne le coup d'État et l'assassinat du président Maïna Sara. Mais il y avait un système, on avait l'impression qu'il fonctionnait. On avait des institutions qui avaient été bien conçues. Or, on a l'impression que les institutions ne suffisent pas. Aujourd'hui, un chef d'État peut tout bloquer à lui tout seul.
Mais vous avez entièrement raison. Les institutions ne suffisent pas. Pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, les cours constitutionnels, de manière générale, n'arrivent pas à valider les élections de manière libre. Tout ce qui consiste à organiser les élections, les soi-disant cellules ou bien cours indépendantes électorales ne fonctionnent pas tout à fait bien, mais beaucoup plus profond et lié le Niger d'ailleurs à la Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous ces pays, quelque part, ils sont liés dans des contrats souvent non connus avec une puissance extérieure. Dans le cas du Niger en particulier, on ne peut pas ne pas parler de l'uranium. La France dépend pratiquement à 60% de l'uranium du Niger. Les contrats ont été signés pendant que le président était encore là. Donc vous n'allez pas imaginer qu'on va voir ces contrats être remis en cause, comme cela avait été le cas en Côte d'Ivoire, par exemple, pour un certain nombre de contrats. Donc on ne peut pas ne pas lier cela au problème de la démocratie. Et c'est cette importance de l'économie et donc de ces contrats, et qui deviennent des contrats de dépendance de la France vis-à-vis des pays africains, qui fait qu'on préfère ne toucher à rien et donc laisser le statu quo, donc le président en place.
Oui, oui, mais Yves Ekwa Maizo, c'est pas la France, c'est pas n'importe quel pays dépendant de l'uranium nigérien qui fait le référendum.
Non, non, il ne s'agit pas d'accuser la France, il s'agit de vous montrer l'importance des puissances économiques. Là, j'ai parlé du cas de l'uranium, mais ça peut être des cas du privé. Vous avez des multinationales qui ont les mêmes puissances. On peut aller très loin jusqu'à voir même le rôle de la Chine dans un certain nombre de pays. Prenez la Zambie, par exemple. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est votre question. Vous avez dit en quoi les institutions n'arrivent plus, finalement, à tenir face à tout ceci. C'est que la raison économique et les intérêts économiques tendent à l'emporter. Et ça pose un problème de fond, c'est-à-dire, à ce moment-là, les populations ont tendance à s'éloigner à ce moment-là de ce cadre, de cette structure, cette infrastructure démocratique qui leur prétendument devrait leur amener à avoir des élections, en tout cas libres. Oui. Et ils ne le trouvent pas.
Est-ce que finalement, je m'adresse à vous, Yacouba Yaro, ces pays qui ont les moyens, comme le Niger avec son uranium, et peut-être bientôt le pétrole, est-ce que finalement ça ne les rend pas trop libres par rapport aux puissances extérieures, justement? Ils peuvent tenir tête et dire on se passe des aides de l'Union européenne, on se passe de l'argent du FMI ou de la Banque mondiale.
Je pense que le cas du Niger, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est dommage ce qui se passe au Niger, parce qu'on a tous espéré que c'était vraiment le laboratoire de la démocratie. Mais je pense que quand on prend spécifiquement ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a l'impression que pour le président actuel, sans lui, rien ne pourra avancer, rien ne pourra marcher. C'est-à-dire qu'il a ramené tout le Niger, tout le développement du Niger, centré sur sa personne. Et ça donne l'impression que, comme l'a dit quelqu'un, qu'on est dans une situation de pouvoir traditionnelle à l'africaine. C'est-à-dire qu'on centre tout sur soi et on dit je suis là, j'y reste. Et je pense qu'en regardant le cas du Niger, c'est vrai, c'est dommage, ils ont le pétrole, ils ont l'uranium, ils peuvent se dire, de toutes les façons, dans quelques années, ils seront quand même un pays incontournable. Et par rapport donc aux puissances extérieures, ils se disent, de toutes les façons, ils vont toujours manifester, ils vont toujours dire, ce n'est pas bien, mais tôt ou tard, ils viendront à nous.
Ils viendront parce qu'ils ont besoin de ces matières premières.
Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous discutez avec les dirigeants, vous dites, de toutes les façons, on les connaît tous, ils sont obligés d'élever la voix, ils sont obligés de manifester quelquefois leur colère, mais ce qui est sûr, la tempête passera et ils viendront à nous. Et je crois que c'est un peu cette démarche-là qu'adopte actuellement le Niger en se disant, bon, de toutes les façons, on est dans une situation, ça ira, restons solides et surtout tenons à notre position, on verra que la communauté internationale va changer. Surtout qu'après, quelquefois, au niveau interne aussi, il y a quelques politiques ou politiciens qui lâchent et qui se mettent aussi dans le rang en disant, de toutes les façons, j'ai plus intérêt à aller vers celui qui gouverne parce qu'au moins, je peux toujours garantir une certaine sécurité économique et financière, alors que quand je me retrouve dans l'opposition, il arrive des moments que tout soit tari. Et donc, oui, avec le temps, ces dictateurs finissent par vaincre en disant, bon, de toutes les façons, on a aboyé, la caravane est passée. Et oui, c'est dommage ce qui se passe.
Oui, c'est pas le cas quand même de la classe politique nigérienne, Chérif Sey.
Dans le cas du Niger, c'est vrai qu'ils ont de l'uranium, c'est vrai qu'ils ont du pétrole, mais pour l'heure, ces recettes-là ne sont pas encore là. Le Niger est encore le dernier, occupe encore le dernier rang à l'indice de développement humain. Ils viennent d'envoyer une délégation à Bruxelles parce que la simple suspension de l'aide budgétaire de l'Union européenne risque de les priver de salaire dans 2 ou 3 mois. Je pense que dans le cas du Niger, ce n'est pas tant que Tandja se dise « j'ai des ressources financières qui me permettront », il sait qu'il ne les a pas encore et qu'il ne les aura pas dans les mois prochains. C'est simplement qu'un homme seul décide qu'il est le Messie et qu'il peut tout faire. Et dans la mesure où on assiste au-delà du Niger à un reflux démocratique, en ce sens que les revendications et les aspirations des populations sont moins prégnantes, cela permet à quelqu'un qui manque de vertu et qui n'a ni le sens de la démocratie, ni le sens de sa propre responsabilité, comme Nigérien ou Sénégalais ou Mauritanien, ou etc., de ramener le pays à lui-même et de lui faire courir des risques et de s'enfoncer dans une impasse. On sait qu'aujourd'hui, au Niger, la situation risque de déboucher sur un coup d'État militaire.
Comme ce fut le cas avec le président Maïna Sara.
Tout à fait. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer.
Alors, revenons aussi au cas de Madagascar. Ivekoua Maïzo, Hans Razuel a refusé le compromis qui lui était proposé, qui était de partager le pouvoir avec les anciens présidents. Aujourd'hui, il a nommé un premier ministre militaire. Est-ce qu'il ne court pas le risque de perdre le pouvoir au profit des militaires?
Mais là, vous posez le problème dont on touche le doigt depuis le début. Voilà encore un pays qui nous a montré un certain Ange Rajoel en tête. Mais en fait, regardez bien ce qui se passe. Comment un individu peut changer quasiment en quelques jours de Premier ministre à plusieurs reprises? Et en plus, ne pas du tout suivre les positions de la SADC ou en tout cas du groupe de contact international. Il s'agit bien de montrer comment l'armée, les militaires derrière ce pouvoir nouveau sont en train de tirer les ficelles. Et quelque part...
Mais alors, ce qu'on ne comprend pas, Ivekoua Maïzo, on se souvient, quand il y a eu le coup d'Hans Razuel et que le président Ravalomanana en a démissionné, il a remis le pouvoir aux militaires.
Absolument.
Qui eux-mêmes l'ont remis à Hans Razuel. Et là, on retourne à la case départ.
Ces individus civils que nous avons l'impression de voir dans la presse tous les jours, nous leur donnons trop de pouvoir. On a parlé tout à l'heure du Niger en disant que c'est un homme seul qui empêche l'avenir du Niger de se faire. Non, il n'est pas seul. Il y a l'armée, il y a les puissances extérieures, il y a les grandes multinationales qui défendent leurs intérêts. Dans le cas de Madagascar, on ne veut pas le dire tout, mais le vrai problème du fond, on en parlera plus tard, c'est parce qu'une partie, 1/5 du territoire a été plus ou moins mise à disposition pour un autre pays, notamment la Corée, qui a déclenché un certain nombre de choses là-bas. Mais cette armée qui est derrière, malgré tout, c'est quand même elle qui tire les ficelles. Et on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à venir plus souvent à la lumière. Donc aujourd'hui, on a maintenant un Premier ministre militaire, ce qui clarifie un peu le jeu, comme en Guinée d'ailleurs, les militaires cette fois-ci s'exposent. Alors la communauté internationale crie au scandale, mais en fait, très très souvent, c'est elle aussi en sous-main qui va négocier des contrats avec ces gens-là la plupart du temps. Donc moi,
mais est-ce que ceux qui critiquent la médiation de l'Union africaine ont raison ou ont tort?
Non, il ne faut surtout pas critiquer la médiation de l'Union africaine. Au contraire, je dirais que l'Union africaine, non seulement a très bien fait son travail, peut-être ce qui est dérangeant, c'est qu'on n'a peut-être pas compris qu'on ne peut pas se substituer à des pouvoirs nationaux. C'est peut-être ça le problème. On a pensé automatiquement que ce que dirait soit la médiation Union africaine, Nations unies, SADC, etc., était devenu, entre guillemets, un supra-État qui pouvait donner des ordres à un État qui s'appelle Madagascar. Et là, on vient de nous donner une leçon en disant, écoutez, tout ça, on a bien entendu, vous voulez des élections, ben on va les faire à plus rapprochées, je crois que c'est à 3 mois maintenant. On nous met maintenant quelqu'un qui apparemment représente véritablement ceux qui sont derrière toute cette instigation, qui est donc l'armée. Donc il va falloir savoir que veut cette armée-là. Peut-être que cette armée, d'ailleurs, ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle met des civils en avant. Mais tant que nous serons un peu hypocrites au fond sur tout ce rôle de cette armée, dans plus de rien, elle revient tout le temps. Vous voyez ? Et c'est ça que je disais. Il faut essayer d'éviter de faire croire que ces personnes civiles que nous voyons en apparence sont véritablement les décideurs.
Oui, alors, on parle de l'armée, et c'est le cas de la Guinée, Alassane Ba. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le problème de la Guinée, avec les morts du stade qu'on connaît, avec l'attentat contre Dadis Camara, si le problème de la Guinée, c'est Dadis Camara, ou si c'est tout un système qui est complètement rouillé.
Oui, Madeleine, je voulais juste revenir quand même sur un petit point qui
on
me
a très peu de temps.
D'accord. Mmh. C'est par rapport au fait ce que jouent comme rôle les ressources dont disposent les pays par rapport aux crises dont vivent ces pays.
En tout cas, par rapport à l'attitude des dirigeants.
Voilà. Mmh. Mais la question fondamentale pour moi, c'est quel projet ces dirigeants-là ont pour leur pays et pour leur peuple. Parce que si c'est considéré qu'ils ont des ressources et que cela fait d'eux des pays indépendants, c'est se tromper. Parce que les multinationales vont venir exploiter avec des intérêts économiques qui vont être rapatriés vers ces pays-là. Donc si le projet ne suit pas derrière, je ne pense pas que ça puisse profiter d'une certaine indépendance pour ces pays-là. Ensuite, pour le cas de la Guinée, je pense que c'est tout un système. Aujourd'hui, quand on voit le capitaine Dadis n'est plus en Guinée, il est parti au Maroc suite à la tentative d'assassinat. Mais il y a tout un système, il y a tous les lieutenants qui sont avec lui, les durs du CNDD, qui sont là, qui veulent rester au pouvoir. Parce que ces gens-là ont goûté au pouvoir. Ils étaient venus avec de bonnes intentions, certes, je ne sais pas, je leur accorde le bénéfice du doute. Mais ils ont goûté au pouvoir, ils ont goûté à l'argent facile, ils ont commencé à signer des contrats de milliards avec la Chine, en bradant un peu les ressources du pays. Ils disaient que les autres, ceux qui sont passés avant eux, ont bradé les ressources du pays, mais ils sont en train de faire exactement
la même chose. Un peu comme en République démocratique du Congo.
Voilà,
oui.
Et ils sont exactement en train de faire la même chose. On a appris il n'y a pas très longtemps que la Chine aurait signé un contrat de 7 milliards. On ne connaît pas encore le détail de tout ce contrat. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont là, ils n'ont aucun projet. Tout ce qui les intéresse, c'est ceux qui sont en train de manœuvrer en sous-main. Ils veulent, coûte que coûte, se maintenir au pouvoir et aussi profiter à leur tour. Et c'est ça le drame.
Alors, Chérif, c'est très rapidement, on voit mal comment la Guinée peut se débarrasser de ses militaires. C'est pas que la classe politique n'a pas fait tout ce qu'elle peut.
Moi, je pense que qu'il s'agit de la Guinée, comme il peut y avoir quelques variations dans les schémas, mais le problème est le même. Au début des années 90, quand nous avons connu cette belle vague de transition démocratique, c'est parce qu'il y a une conjonction à la fois intérieure et extérieure. À l'intérieur, les populations, les partis, etc. se sont mobilisés et ça a été bien relayé au plan international. Malheureusement, aujourd'hui, l'international, excusez le terme, mais ce n'est plus son problème. C'est une affaire des Africains là-bas, ils n'ont qu'à se débrouiller avec eux. L'essentiel pour eux est que s'il y a des contrats, les contrats soient respectés. Et quel que soit celui qui est là, la France sait très bien que quel que soit le régime demain en place au Niger,
ça continuera. Il pourra signer le contrat, oui.
Donc il n'y a plus cet appoint extérieur. Ça reste malheureusement aujourd'hui un affrontement, un face-à-face entre un pouvoir militaire qui est la seule force armée et puis des pauvres populations. Les pauvres populations qui plus est sont mal mobilisées et bien sûr le rapport de force est connu d'avance et c'est pourquoi il faut malheureusement craindre à un reflux démocratique qui va aller persistant jusqu'à je ne sais pas quand en Afrique aujourd'hui.
Oui, alors reprenons le cas aussi de la République démocratique du Congo qui a fait la une de l'actualité avec la reprise des combats à l'est du pays avec la réconciliation avec le Rwanda et d'autre part avec le Congo qui s'est retrouvé obligé de revoir les contrats signés avec la Chine. Iveko Amaizo, un pays qui n'arrive pas à se retrouver, en tout cas qui n'arrive pas à retrouver sa souveraineté, même si aujourd'hui, l'armée congolaise est à l'est de la République démocratique du Congo, mais on a vu qu'il n'arrive pas à contenir la situation face aux milices des Hutus du Rwanda.
Oui, bon là, vous touchez en un condensé tout ce qu'on vient de dire, avec un grand territoire d'abord. Très mal contrôlé, avec des intérêts pas possibles extérieurs, qui parfois on voit leurs avions non immatriculés viennent prendre des matières premières et repartent, ont des espaces qu'ils contrôlent complètement pour empêcher justement l'avancée chinoise de prendre, un espace aussi où pour la première fois ce sont les Chinois qui reçoivent les contrats de l'État et le sous-traitent à des multinationales, y compris françaises. Donc vous voyez, c'est des changements, c'est un espace vraiment où tout change. Mais je reviens à notre point de départ qui est l'armée. Cette armée, finalement, n'est pas tout à fait aux ordres. Elle est aux ordres à celui qui paye. Et à partir du moment où celui qui paye détient des matières premières et peut payer, regardez ce qui se passe. Cette armée, elle est en débandade, elle ne respecte pas pratiquement rien, même celle du pouvoir. Donc à ce moment-là, que faut-il faire? Mais il faut se poser la question, comment l'ONU peut avoir la plus grande troupe dans ce pays et finalement avoir le résultat que nous connaissons tous, qui ne donne pas de résultat? Je ne peux pas oublier des amis journalistes qui sont morts là-bas et qu'aujourd'hui plus personne n'en parle et la communauté internationale ne dit rien dessus, ne sont même pas indemnisés. C'est une honte.
Comment on ne peut pas oublier ces femmes violées à longueur de mois? Oui.
Absolument. Donc il y a un vrai problème d'hypocrisie profonde qu'on ne peut pas laisser à la communauté internationale. C'était nous, Africains, peut-être au niveau sous-régional, voire continental, à se poser les vraies questions du rôle de l'armée. Cette armée devrait retourner à l'infrastructure, faire de la logistique, nous faire réduire les coûts de transaction dans nos pays, parce que jusqu'à nouvel ordre, cette armée n'a jamais protégé nos frontières, elle a plutôt tabassé nos populations. Elle est une structure très organisée qui est utilisée en bien ou en mal contre les populations, et ceci doit s'arrêter.
Alors, Iveko Amaizo, on a vu quand même que le Congo essaie d'avoir de bonnes relations avec les voisins. C'est un pays qui a subi une guerre avec 8 pays de la région. Aujourd'hui, au moins sur ce front-là, les choses s'apaisent.
Ah ben beaucoup, beaucoup, parce que qu'est-ce qui se passe? Les pays qui sont autour, prenons Museveni de l'Ouganda, prenons le Rwanda tout simplement, voilà des pays qui bougent énormément et qui ont justement un objectif. Museveni est très très dur sur l'industrialisation de son pays. Rwanda est en train de revoir complètement une vision dans laquelle le mieux-être de la population, tant au niveau économique, social comme culturel, doit s'améliorer. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne discute plus en l'air, on vient, on dit écoutez, voilà, on va faire une usine de méthane, on va faire une usine dans le domaine de tomates ensemble, on va faire des bouteilles pour pouvoir mettre de la bière, etc. Ce sont des projets concrets qui profitent aux populations, qui vont créer de l'emploi. Et à ce moment-là, tout change, parce qu'on n'est plus opposé, on devient des partenaires intelligents.
Chérif Sey, un mot sur la Somalie, voilà un pays sans État depuis 1990. Depuis la chute de Siad Barré, l'Union africaine a fait ce qu'elle a pu avec les troupes sur place. Aujourd'hui, d'aucuns critiquent l'impuissance de l'Union africaine, mais d'autres estiment que la communauté internationale a abandonné la Somalie, alors que ça devient peut-être le repère d'une certaine talibanisation de l'Afrique.
C'est clair que la communauté internationale a abandonné la Somalie, comme elle nous montre qu'elle est prête à abandonner tous les autres pays africains. Il faut que nous, Africains, nous soyons très, très, très lucides sur notre sort. C'est nous qui ferons notre avenir. Nous ne pouvons plus compter sur la communauté internationale. Si la communauté internationale intervient dans un pays africain, ce n'est plus temps pour les beaux yeux de ce pays-là. C'est soit parce qu'il y a des ressources stratégiques dont elle a besoin, soit il y a des risques de déstabilisation, comme on le voit au Sahara, pour des pays. Mais autrement, nos pays en tant que tels, nos populations...
D'ailleurs, c'est intéressant de voir les deux points qui intéressent la communauté internationale, la République démocratique du Congo, avec le plus gros contingent des forces onusiennes et l'Afrique de l'Ouest, en fait le Sahara.
Voilà, dans ces deux pays, justement, la communauté internationale intervient dans le cas de la RDC parce qu'il y a des ressources dont tout le monde a besoin, et dans le cas du Sahara parce qu'il ne faut pas que ce soit une base pour Al-Qaïda capable de menacer des intérêts occidentaux. C'est les seules raisons pour lesquelles la communauté internationale intervient encore en Afrique. Ne soyons pas naïfs, ne soyons pas des ingénus. L'Afrique, la communauté internationale n'interviendra pas pour nos beaux yeux. si nous sommes entre nous, c'est à nous de régler nos propres problèmes et de trouver des solutions. Personne ne trouvera les solutions à la place des Africains.
Alors, des solutions à trouver, on en parlera la semaine prochaine. Nous allons continuer le bilan de l'année 2009 en Afrique. Merci, merci à tous les quatre. Merci à l'équipe du débat africain, Laurence Colonne et Julien Lingue. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain.
Votre courrier par email, débat.africain@rfi.fr.